Toujours plus proche des gens du territoire, aujourd'hui le LEM part en vadrouille à Camaret-sur-Mer à la rencontre des élus pour parler de leurs différents projets. Ça c'est pour la première partie et puis nous rencontrerons des associations de la commune avec l'association APAS, l'association culturelle Caissonne et puis on activera la DeLorean pour parler de l'histoire de la tour Vauban.
LEM, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Nous sommes donc en direct de la bibliothèque de Camaret, où nous vous invitons évidemment à passer un petit moment avec nous jusqu'à 13h. Nos services civiques sont en force, c'est Camille qui est à la technique, il est accompagné de Lilou et de Tristan. Cette émission sera rediffusée ce soir à 18h. Vous pouvez aussi retrouver tous nos contenus et nous écouter tout le temps sur le site de la radio à transistor.bzh. Et comme à chaque fois, quand on se promène sur notre territoire, nous invitons vos élus pour papoter des travaux en cours, des projets divers et variés. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que Camaret-sur-Mer n'en manque pas. Aujourd'hui, en plateau, je reçois Joseph Lemerour. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Ça va ?
Oui, très bien.
Vous êtes le maire de Camaret et vous êtes accompagné de Marjolaine Simon qui est chargée de communication et qui a organisé toutes les missions. D'abord, merci beaucoup Marjolaine et bonjour.
Bonjour et merci à vous de nous avoir proposé cette émission.
Est-ce que ça va ?
Très bien.
Le vendredi, il faut. Toute veille de week-end, c'est obligé.
Oui, toujours.
Bon, on va parler ensemble donc de divers projets qui touchent le développement local, le port, la culture. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter la commune, Joseph ?
La commune, Camaret, c'est une commune avec une population de 2600 habitants l'hiver et l'été multiplié par, disons, les 4. Et au contraire, nous sommes bien contents et parce que nous vivons beaucoup du tourisme. Voilà. Et Camaret, je le dis tous les fois, mais je vais le répéter avec plaisir. Camaret, il y a, dans les années 70, Camaret, c'était le premier port langoustier européen de pêche à langouste. C'est ce qui a fait la richesse de Camaret. Voilà. Et on a gardé, bien sûr, tous les bâtiments. Voilà.
C'est une commune qui s'étend de où à où, qui fait à peu près quelle superficie ?
Oh, 1600 et quelques kilomètres carrés, j'ai pas le chiffre exact en tête. Donc, en fin de compte, c'est presque une île. Quand vous passez Crozon, vous passez sur une belle plage, la plage de Kerloir, qui est sur la commune de Camaret. Et après, vous rentrez dans cette belle commune de Camaret, avec des sites formidables.
Ouais.
Le maire est un peu chauvin, je suis désolé, mais c'est comme ça.
Ouais, vous êtes comme vous êtes, et c'est comme ça qu'on vous prend, il n'y a pas de problème. Ouais. Comment on appelle les habitants de Camaret ?
Les Camarétoises et les Camarétois.
Évidemment. Et elle est équipée comment, votre ville ? Qu'est-ce que vous avez comme structure ?
Donc, en fin de compte, on a beaucoup de structures. On a, au niveau du tourisme, on a deux campings, un camping municipal, un camping privé. On a des centres de vacances, la PAS, que vous allez recevoir tout à l'heure.
Ouais.
Voilà. On a le centre IGESA, un centre militaire. Et puis, on a aussi la voile. On a, pour l'instant, on n'a plus de plongée parce que le club Léo Lagrange a arrêté la plongée. Mais nous avons un projet de la relancer, cette plongée et cette voile, au contraire. Et puis, donc voilà, un petit peu l'activité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité économique ? C'est ça peut-être la question que vous me posez.
Oh non, c'était juste pour savoir s'il y avait des écoles, des collèges, ce genre de choses.
Il y avait un collège il y a quelques années, il a été supprimé parce qu'il n'y avait plus assez d'élèves. C'est un peu comme ça dans chaque commune. Mmh. Et puis, bien sûr, qu'on a une école qu'on va la garder.
Ah oui, il faut.
Et on est fiers, parce que c'est aussi la vie de la commune. Des jeunes qui arrivent, c'est principal.
C'est principal, oui. C'est votre premier mandat ?
Oui, alors c'est mon premier mandat. J'ai été élu en 2020, parce qu'avant je ne pouvais pas. Je vais expliquer un petit peu rapidement. Avant, j'étais donc directeur des services techniques de la ville de Camaret, chef des pompiers de Camaret, et j'en suis fier. Et puis après, donc, j'ai pris ma retraite en 2014. Ouais. J'ai profité de quelques années, de 2014 à 2020. Et en 2020, je me suis présenté aux élections municipales et puis j'ai été élu au contraire.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire ?
Parce que j'adore ça.
C'est vrai ?
J'adore ça, oui. J'aime bien les relations avec la population que j'ai connue dans mon ancienne activité. Et voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça me sert beaucoup.
C'est rendre service aux gens, finalement.
Ah bah, c'est ça le but.
D'une autre manière, ouais. Alors, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé un article dans le Télégramme qui parle de votre presque début de mandat, qui parlait d'un déverrouillage, une espèce de déverrouillage, une sorte de punition de la préfecture à l'égard de la commune qui avait, en 2018, suspendu toutes les délivrances de certificats d'urbanisme à cause d'un problème de conformité d'assainissement. Une suspension qui aura duré 3 ans, puisqu'en janvier 2021, il y a eu une levée de bouclier. On a déjà eu, nous, l'occasion de parler un petit peu des conséquences quand le logement est un frein dans le tissu local avec les 8 autres communes dans lesquelles on a fait cette émission. Mais je vous avoue que je ne m'attendais pas vraiment, moi, à tomber sur un tel problème. Alors ma première question, c'est, et ça vous concerne, vous, directement, c'est quand même un sacré défi quand on arrive en début de mandat.
Oui, alors actuellement, Actuellement, je suis vice-président de la commune en charge de l'assainissement, mais à l'époque, c'était la compétence de la commune. Donc, je vais vous dire, donc dès notre élection, et bien sûr, nous étions sous l'arrêté, la mise en demeure de ne plus avoir droit de délivrer de permis construire si on veut se développer. On ne pouvait pas. Donc, dès notre arrivée, nous avons engagé d'importants travaux de remise pour l'assainissement. Je vais vous expliquer sans rentrer dans le détail, bien sûr. Donc, on a commencé par refaire tout le port, parce que tout le port, ça représente un travail énorme. Tout l'assainissement, le réseau d'assainissement sur le port, rue des 80 et rue Jean Leclerc, qui est un linéaire très important. Et en chiffrage, je peux vous donner le chiffre, ce qui a coûté 2 millions d'euros pour une commune comme Camaret, 2600 habitants, c'est important. Mais on a été subventionné, heureusement. Et donc, voilà. Après, donc on a fait ces travaux et ensuite l'État, la préfecture, le préfet, on était sous la mise en demeure de cet arrêté, il a vu que la commune de Camaret faisait beaucoup d'efforts et après cet arrêté a été de mise en demeure. Et en même temps, pour continuer, il fallait aussi travailler sur la station d'épuration. On fait les réseaux, mais il faut penser où c'est qu'ils arrivent les réseaux. La station d'épuration est en cours de modification. On change un petit peu le système membranaire pour mettre un système de boue activé. Donc ça y est, ça se termine. Et pour la fin d'année, cette modification sera terminée. Et donc tout ça a permis de lever cet arrêté.
Alors cet arrêté-là, elle a eu quoi comme conséquence sur la commune? Alors, mis à part l'arrêt du développement, mais aussi sur les habitants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel projet était attendu par les habitants, par exemple, qui n'a pas pu voir le jour?
Il y a des projets qui étaient bloqués, parce que pas tous les projets. Il y a des projets, quand on est branché à un assainissement individuel, on a le droit de délivrer des permis de construire. On appelle ça le SPANG, si vous voulez, un petit peu. Voilà. Mais par contre, tout ce qui était branché au collectif interdit. Il y a des gens qui attendaient. Ils étaient des maisons principales. Bien sûr, il y avait des maisons secondaires, mais aussi beaucoup de maisons principales qui attendaient. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est au niveau de la politique. C'est le maire après décision et puis les élus. Et voilà, j'ai oublié de le dire quand même, c'est parce qu'on a fait Starbucks que ça a débloqué toute la situation.
D'accord, donc maintenant, on va rassurer tout le monde. Tout va bien, les travaux donc se terminent quasiment pour cette station, c'est ouais, ça. Ça va se terminer dans les mois à venir, là, c'est ça?
Pour la fin de l'année.
Pour la fin de l'année, donc c'est dans les mois à venir, c'est parfait. Alors, il y a beaucoup, j'imagine, de projets pour le développement local. C'est quoi ces projets?
Ces projets, c'est donc en fin de compte déjà pour les maisons individuelles. Et puis nous aussi, on a des projets au niveau du logement. Voilà. Logement, on a donc au niveau de, on appelle ça le secteur de Kéros, c'est un nom de village, de secteur. Et donc il y a le projet qui va être lancé par un bailleur social qui est Finistère Habitat. Mmh. Donc une construction de 12 logements. Ça y est, ça s'est validé.
Ouais. Ça va être quoi comme type de logement?
Logement, on appelle ça sociaux, mais entre parenthèses, loyer modéré.
Quoi. Oui, c'est voilà, ça. Voilà. D'accord.
Et puis en même temps, il y a un terrain qui appartient à la commune, à Kéros, et là on va viabiliser 18 terrains donc qui vont être mis en vente. Mais pour les maisons, bien sûr, principales. Quoi.
D'accord.
Alors, pour les primo-accidents.
Alors, qui sont les gens qui arrivent à Camaret? Vous avez beaucoup de demandes déjà en mairie pour, ouais. Justement pour
ouais. Ouais, ben les gens, oui, on a beaucoup de demandes parce que les gens adorent Camaret.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que bon, c'est pas mal quand même. Il y a tout ce qui veut. Il y a le surf, la planche, la voile, et puis d'autres activités. Il y a pas simplement la mer. Il y a aussi le côté le GR34, se balade, et puis voilà. Et donc les gens adorent Camaret parce que maintenant, vous le savez, c'est que les gens, en fin de compte, avec le télétravail. Et la fibre qui est arrivée à Camaret, donc le développement, c'est aussi, c'est un
ça
tout.
Ça fait partie, oui,
ça
bien
fait
sûr.
Partie. Et donc les gens aiment bien venir avec un accueil comme il y a à Camaret, et ben s'installer à Camaret.
Ouais,
et
puis c'est aussi une cité artistique. On verra ça tout à l'heure.
Tout à l'heure, vous en parlerez.
Avec Marjolaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes quand même une ville qui est vraiment au bout.
Ouais.
Au bout du bout, on ne peut pas faire plus à l'ouest
non.
que Camaret, je crois. Comment ça se passe au niveau de la santé ici? Il n'y a pas d'hôpital?
Non, justement, c'est bien que vous abordez le sujet parce que j'avais un petit mot, justement, j'avais préparé un petit mot.
Allons-y.
Alors, parce que c'est pareil, tout à l'heure on parlait de l'assainissement, mais quand nous sommes arrivés aux affaires en 2020, quelques mois après, il y a eu 3 médecins. Nous nous sommes trouvés avec un seul médecin. Pour une ville de 2600 habitants, et l'hiver, même l'hiver, et en contrepartie, même l'été. Donc, il y a 2 médecins qui sont partis en retraite. Donc, ce qu'on a fait, la commune, on a investi dans des travaux pour installer donc, une maison médicale, rue des 80 à Camaret. C'est un bâtiment communal qu'on a aménagé avec les services techniques. Et donc, ce qui a permis à deux jeunes médecins, de venir s'installer. Ce que maintenant, on a 3 médecins, et... Les médecins, vous savez, maintenant, les médecins, ils font plus 60-70 heures, c'est fini, l'époque est révolue. Et puis, en fin de compte, ils font moins d'heures. Donc, il y a 2 autres médecins qui viennent compléter ces 3 médecins. C'est une dame, dans le cabinet rue des 80, et une autre dame, dans l'autre cabinet médical, rue Chanon-Mossenec.
Vous avez des dentistes aussi, je crois, hein, c'est ça hein. Vous avez une dentiste qui est arrivée.
J'ai pas oublié, j'allais vous en parler.
Non, mais ça, c'est un vrai sujet, hein, la dentisterie, je sais pas si c'est le mot, mais je sais que c'est un vrai sujet dans tous les Camille qui rigolent, dans toutes les communes, avoir un dentiste, c'est presque essentiel. Hein.
Vous faites bien me poser la question. Juste un petit mot, si vous permettez.
Ouais.
Donc, je parlais des médecins. Après, ce qu'on a, c'est pour dire que même au bout du monde, au point de vue médical, on est pas mal. On a 2 cabinets d'infirmiers, 2 cabinets de kinésithérapeutes, 2 ostéopathes, une psychologue, une pharmacie. C'est très important dans les communes, on en parle souvent dans les médias tous les jours. On a une pharmacie, bien sûr, qu'on va garder. Et puis, et depuis février 2025, vous en parlez, je vais vous répondre. Donc, on a accueilli une dentiste qui s'appelle Madame Docteur Ribas. Cette dentiste-là était très attendue par la population. Il n'y avait plus de dentiste depuis plusieurs années. Et puis, pour avoir un rendez-vous ailleurs, c'est des mois et des mois.
Et on allait où pour se faire soigner ses dents?
Ils allaient même à Brest, Quimper ou ailleurs. Voilà, les gens. Et il faut penser aussi aux personnes âgées qui n'ont pas de moyens de se déplacer.
Oui.
Et à tout le monde, bien sûr. Alors, ça y est, c'est avec plaisir qu'on a accueilli Mme Ribas depuis février 2025. Et puis, alors, vous voyez, elle vient du nord de la France. Et elle a choisi Camaret. Pourquoi? Ça revient à ce que je disais précédemment, la mère et tout, elle adore, et puis voilà. Donc c'est un tout, et elle s'installe définitivement à Camaret.
Ouais, ça c'est un projet qui date de quand, vous m'avez dit, la maison médicale?
Ça c'est depuis 2020 aussi.
C'est fait depuis 2020, ouais, donc tout, en fait tout vient depuis cette histoire d'assainissement presque. Hein.
Oh, bah, si on veut.
Presque ça. Vous avez aussi beaucoup d'associations à Camaret?
Oui, alors Marjolaine, on a beaucoup d'associations. D'ailleurs, ce qui fait la richesse de Camaret, hein, Marjolaine vous en parlera un peu plus en détail. Mmh. On a combien d'associations à peu près, Marjolaine? Une quarantaine peut-être?
Une cinquantaine.
Une cinquantaine, oui. Une cinquantaine d'associations. Et bien sûr, heureusement qu'elles sont, elles s'investissent beaucoup. Tout à l'heure, les artistes, mais il n'y a pas que les artistes, il y a d'autres associations. La voile, avec ce qui se fait. L'année dernière, il y a eu une manifestation nautique des voiles du Camaret. Et donc, cette association continue. Et elle a un projet encore qui va se dérouler au mois d'août, là.
Oui.
Et puis, la prochaine, donc, il n'y a pas que la voile, mais ça en particulier. Et puis, voilà.
Oui, j'aborde ce sujet de l'association parce que, déjà, 50 associations pour 2000 habitants, je trouve que c'est énorme.
Ah,
c'est vraiment chouette. Et c'est surtout que vous allez rénover ou peut-être même construire, je ne sais pas, la maison des associations. Et aussi, un truc que je ne connaissais pas, c'est la maison des saisonniers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la maison des saisonniers ?
Alors, on va commencer par les maisons des saisonniers. Ben, la maison des saisonniers, c'est quand même un peu particulier à Camaret. Pour une ville de 2000, je répète, et nous en sommes fiers, pour 2600 habitants, dont on a créé une maison des saisonniers de 18 logements. Et pour, donc, on a un bâtiment qui nous appartient, rue du Stade à Camaret, l'ancien club Léo Lagrange. Et donc, il y avait des demandes des commerçants, comme dans beaucoup de communes, qui ne trouvent pas de saisonniers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de logement. Alors ce qu'on a fait, ben on a créé 18 logements, la commune, le bâtiment était communal, mais on a quand même fait des travaux hein, à l'intérieur. Et puis donc on accueille des saisonniers depuis déjà 2 ans, ça va faire la 3e année. Et donc ces saisonniers, ce sont les saisonniers de la commune, mais aussi des commerçants, des restaurateurs, etc. Et donc ils payent un loyer modeste, mais très modeste, voilà, pour aider à venir travailler à Camaret, ouais, au bout du monde.
Vous avez aussi des maraîchers ou des choses comme ça sur Camaret ? C'est très touristique, mais est-ce que vous avez aussi une activité qui va dans ce sens ?
Oui, donc pendant la saison, toute l'année, il y a un marché le mardi. Mais après, pendant la saison estivale, il y a un marché qui part. Au contraire, on a voulu décentraliser un peu le marché, pas tout sur le port, ouais. Venir un peu à l'intérieur. Et puis, donc, en fin de compte, il y a un marché tous les mardis, ici, qui part donc du port pour venir à l'intérieur vers la mairie. Et très apprécié par les camarétois et par les touristes.
D'accord. Donc, ce projet d'assainissement, là, je reviens vite fait dessus. Vous avez pris, je crois.
J'y tenais à l'assainissement.
Oh non, mais c'est parce que pour la suite, j'y tiens pas. Mais je vais passer à autre chose, promis.
Non, je vous en prie.
Et donc, vous avez fait, je crois, un crédit, en gros, sur 10 ans pour ça, pour une planification sur 10 ans pour pouvoir faire ça. Et vous avez. Donc, vous êtes en projet avec tout ça, mais c'est quoi les leviers pour justement tous ces projets de pôle médical, de logement et tout ? Comme vos collègues maires, vous avez pris le dispositif Petite Ville de Demain ou vous avez choisi un autre dispositif ?
Non, on ne fait pas partie de Petite Ville de Demain. En presqu'île, vous le savez sûrement, il y a donc Crozon, oui. Crozon, Le Fou et Pont-de-Buis. Mais par contre, le Crozon Petite Ville de Demain, ils vont quand même, ça va se développer vers Camaret aussi, parce que voilà, c'est ça. Donc pas Petite Ville de Demain. Si on fait tous ces travaux, et encore, j'en ai pas fini. Oui. On n'aura pas le temps de tout énumérer. Et autrement, c'est avec plaisir, je vous aurai tout, voilà. Mais par contre, on a des aides, beaucoup d'aides financières. Heureusement. Autrement, on ne pourrait pas faire. On a juste comme ça, on a le PAC 2030 avec le département. D'ailleurs, je profite de l'occasion, si vous permettez, pour remercier Maëlle Le Calan qui nous aide beaucoup dans le cadre du PAC avec le volet 1 et le volet 2. On a bien sûr la région qui nous aide aussi avec la région et bien sûr l'État avec des subventions. Je ne vais pas rentrer en détail. On appelle ça la DETR et la DECIL. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Non, pas trop.
Non, ça ne me semble pas. Mais donc, c'est l'État qui nous donne des subventions aussi. Et donc, grâce à tous ces services qui nous aident, on peut faire des travaux.
Alors, je me posais une question. Je sais que Marjolaine, elle m'a donné une petite information concernant le montant pour l'aide au logement. C'est un exemple qu'on va prendre. Vous avez eu 50 000 euros, mais on fait quoi dans le logement avec 50 000 euros ?
Non, mais le logement, 50 000 euros, en fin de compte, c'est le département qui a octroyé ces subventions. C'est via la commune, mais Finistère Habitat qui va recevoir ces 50 000 euros pour les aider parce qu'ils sont obligés de faire un plan financier. Nous, on leur donne, la commune, on leur donne le terrain gratuitement et après, ils contrôlent les bâtiments. Donc, ils ont un plan financier et donc il y a 50 000 euros d'octroyer en plus par le département pour Finistère Habitat.
D'accord. Alors, quelles sont les autres aides que vous avez eues, mis à part le pacte, pour pouvoir financer tous vos projets ? Enfin, une partie en tout cas. Vous avez eu d'autres aides, d'autres financements ou pas ?
Non, il y a le PAC. Hein, le PAC qui représente quand même une certaine somme. Le PAC, donc la région avec Bien Vivre partout en Bretagne. Et puis et l'État, hein, beaucoup des DETR. On va pas s'en plaindre, on a été gâtés par les services de l'État pour les subventions.
Ouais, et vous avez été aussi bien aidé pour le port ? Donc ça, c'est un autre sujet aussi, hein, le port à Camaret, c'est une pièce importante avec la tour Vauban de la commune. C'est un très très gros dossier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce port ? Donc mis à part que c'était un port langoustier.
Oui, ben, le port, en fin de compte, c'est un port communal. Dans beaucoup de communes, les ports sont départementaux. Ici, c'est un port communal. En fin de compte, quand vous venez par la mer, quand vous dépassez le phare vert, le phare rouge à l'entrée du port par la mer, tout l'intérieur, c'est la commune qui gère. Donc c'est un port... C'est un port avec beaucoup de plaisanciers. On a 700 anneaux de port, voilà. Donc il y a 3 ports. Et il y a aussi un petit peu dans le port, il y a des pêcheurs. des pêcheurs. Il y a une entreprise aussi qui élève des algues avec Nicolas Royal, vous avez peut-être entendu parler.
Oui.
Tout ça, Actimus, en même temps, c'est le développement économique. Et ils sont installés au niveau du port de pêche à la Clié, l'ancienne Clié. Et donc, au port, à la plaisance, ben, en fin de compte, depuis, je vais vous dire un petit mot, si on a le temps, au port.
Allez.
Bon, allons-y alors. Hein, bien. Alors, donc, depuis la tempête Sarian, c'était, vous rappelez,
hein, eh ouais.
Tout le monde se rappelle, voilà, en novembre. Et donc, il y a un programme annuel, il y a eu beaucoup de dégâts, hein, c'est énorme, les dégâts. Donc, il y a un programme annuel de changement de ponton qui a été réalisé. Donc, un programme annuel avec un marché à bonne commande, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple, cette année, le port, la commune, le port, il y a, en fin de compte, juste au niveau des budgets, il y a trois budgets sur la commune. Il y a le budget principal, le budget du port, le budget du camping municipal. Donc, on appelle ça des budgets annexes. Bien, sur le port, cette année, au niveau des pontons, on a investi 150 000 euros pour les pontons en 2025. Ça va être la même chose en 2026 et avant. Donc, donc voilà. Et je vais vous dire un petit peu des investissements, qu'est-ce qu'on fait aussi, un petit plus au port, ça représente un bon chiffrage.
J'imagine.
C'est pour ça qu'on a, il y a eu un budget, mercredi, il y a eu un budget supplémentaire de voter, pour un budget de 800 000 euros. On a mis aux normes l'aire de carénage, c'est quand même important d'avoir des, voilà. Et on a acheté un camion grue pour le port, on est autonome, hein, c'est pour ça que c'est bien. Et avec des gens aussi, un service technique très compétent, une machine à glace, pour donner la glace aux pêcheurs, voilà. Et on a acheté aussi une barge pour faire les travaux. Et rien que la barge revient à 60 000 euros.
Ouais, et l'autre défi en ce moment que vous avez avec le port, c'est pour cette fameuse histoire d'assurance. À cause de la tempête, les assureurs ne veulent plus assurer les ports.
Oui, donc c'est-à-dire que ce qu'on a fait, on est obligé de prévoir ça dans le budget.
Voilà,
parce qu'ils ne veulent pas assurer, parce que ça représente des sommes importantes.
Ah, oui.
Et donc, on a prévu une somme dans le budget pour pallier à ce manque d'assurance.
Vous arriverez à trouver un assureur bientôt?
Oh, oui, je pense.
C'est vrai?
Oui, il faut.
Ah, ça, c'est bien.
C'est en cours.
On va donner un petit peu la parole à Marjolaine, si vous le voulez bien, pour parler un petit peu de la culture à Camaret, parce qu'il ne nous reste pas trop de temps, ça. Juste quelques minutes, Marjolaine. Désolé.
Ah bon, j'ai pris trop de temps.
Mais non, pas du tout. Le temps passe, et puis c'est comme ça. Hein.
Bon, allez, je vous laisse.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à Camaret, Marjolaine?
À Camaret, monsieur le maire en parlait il y a quelques instants. On a une cité d'artistes. Qui existe depuis les années 90, où au début on accueillait, c'est sous l'impulsion d'un artiste local, Jean-Claude Leroux, qui a réussi à dynamiser en fait tout un ancien quartier commercial qui était en déclin. Et donc du coup, juste derrière la mairie, il y a un quartier qu'on appelle la place Saint-Thomas. Maintenant, ça s'étend un petit peu partout et on a plus d'une trentaine d'ateliers d'artistes qui se mettent en place toute l'année, et surtout l'été, l'été entre avril et septembre, il y a beaucoup d'artistes qui ouvrent leurs ateliers. Donc c'est pas juste des galeries, donc ils peuvent voir les gens travailler. En fait, on a des graveurs, on a des modélistes, on a des sculpteurs sur bois, on a des peintres, on a vraiment de tout, on a de la calligraphie. Donc c'est une vraie richesse d'avoir ça. C'est un peu comme la cité d'artistes qu'il peut y avoir à Pont-Aven, à Concarneau. C'est plus important d'un point de vue médiatique, mais nous on est très fiers d'en avoir à Camaret. Nous on travaille avec eux. Cette année on a développé un projet d'exposition commune sur la thématique de la Tour Vauban.
Et oui.
Voilà, donc chaque artiste avait une carte blanche pour participer à cette exposition. On a une quinzaine d'artistes qui ont répondu présents. Donc là, c'était en début de semaine dernière, on a fait un vernissage pour inaugurer cette nouvelle exposition qui est au pied de la Tour Vauban, qui est gratuite, qui est accessible en permanence jusqu'au 30 septembre. Donc ça fera aussi partie de la programmation des Journées du Patrimoine.
Alors, il y a quoi dans cette expo, finalement?
Il y a un peu de tout. On a des artistes qui ont fait des versions found footage de la Tour Vauban, donc vraiment des vieilles archives un peu à la Blair Witch, où en fait on voit King Kong qui saisit la Tour Vauban. On a une artiste qui en a fait, qui a un univers très onirique, très, très stellaire, qui elle a mis la Tour Vauban en suspens dans une espèce de galaxie. On a des graveurs qui en ont fait des choses avec des petits jeux de mots. On a des artistes qui l'ont représenté avec des couleurs très 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 différentes. On a de l'aquarelle aussi. Donc il y a un aquarelliste qui lui a un peu déstructurer la tour. Voilà, il y a plein de... Chacun a sa version. Il y a des choses très représentatives, enfin très figuratives, et d'autres beaucoup plus fantasmées, beaucoup plus décalées de ce que peut être la tour Vauban.
Alors combien d'œuvres en tout seraient exposées ?
Il y a une quinzaine d'œuvres.
D'accord. Et pendant combien de temps on va trouver ça de camp à camp ?
Du coup, jusqu'au 30 septembre.
Ah ouais, donc ça laisse tout l'été tranquille
c'est ça, pour
regarder ça. Pour
venir le voir. Et donc, ça permet aussi quand on ne sait pas trop si on veut encore aller à la tour Vauban, on la voit d'un aspect plutôt artistique. Et après, on peut rentrer pour avoir l'aspect un peu plus historique.
Plus historique, oui. On verra l'aspect historique tout à l'heure, justement. Et il y a une petite route aussi, des fortifications, c'est ça qui est un petit chemin, une petite balade, c'est ça qui est prévu ?
Alors oui, jusqu'au 15 juin, on a une exposition qui nous a été prêtée par la communauté de communes et qui a été réalisée avec une association qui est valoriser le patrimoine le patrimoine militaire en Presqu'île. Je parle sous le couvert d'un de mes collègues, mais on va dire que c'est cette association-là, et donc ils nous ont prêté cette expo, qui est une expo en fait qui se baladait aussi à la pointe des Espagnols, donc à un autre haut lieu des fortifications militaires en Presqu'île. Il y en a plein d'autres. Et donc là, c'est pour expliquer un peu la route des fortifications qu'il y a en Presqu'île, parce que ça, les fortifications, elles sont à plein d'époques en fait en Presqu'île. Ça a toujours été une place forte, on va dire, dans la défense de la rade de Brest et du port de Brest aussi. La tour Vauban en faisait partie, donc c'était pour ça que c'était essentiel de nous l'avoir en exposition chez nous.
D'accord. Merci beaucoup, Marjolaine Simon et Joseph Lemerour.
Si vous permettez,
oui.
Si, juste une minute, même pas 30 secondes, 30 secondes.
Allons-y.
Si vous permettez. Oui, c'est dommage, on n'a pas le temps, mais c'est avec plaisir que vous pouvez revenir nous voir, parce qu'en fin de compte, on a des projets, juste comme ça, pour la maison des associations, c'est important. Il faudra qu'on fasse, si vous souhaitez.
Évidemment.
Et puis, la salle de sport, avec la mise en place d'un mur d'escalade, il n'y en a pas beaucoup dans le département. Et donc, Camaret, on va en voir un. Voilà.
C'est chouette.
Donc, revenez nous voir. C'est avec plaisir que je vous accueille.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis, en tout cas. Vous étiez donc nos invités de la première partie aujourd'hui. Et j'imagine que vous voulez en savoir plus sur la tour, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, ça tombe bien, dans un instant, on reçoit le spécialiste de cette structure, c'est Evan Nurit. Et juste après la pause musicale, salut Camille, il y a quoi au menu aujourd'hui ?
Salut Davy. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on s'écoute une artiste qui est programmée ce week-end, plus précisément samedi 17 mai à 19h au Café Concert La Jetée à Crozon. Elle s'appelle Elisabeth Vogler, elle est toulousaine et vous allez voir, c'est assez mystique. Thank you. Et c'était le morceau Les sources creuses de la Toulousaine Elisabeth Vogler, extrait de son album Les mains tordues, paru en 2024. Je rappelle qu'Elisabeth Vogler est programmée dans le cadre du festival Joli Mai qui se tient là, juste là, ce week-end pour la première fois au café-concert La Jetée de Crozon. C'est une occasion à ne pas manquer pour découvrir des artistes qui réinventent les musiques traditionnelles. Merci David, je te laisse la parole.
Merci Camille. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie du LEM sur le 100.4 FM ou sur le site internet de Transistor. On est encore ensemble pendant une trentaine de minutes. Nous allons recevoir des associations culturelles et touristiques avec Kesson et La Passe. Mais tout de suite, c'est Evan Nurit qui nous a fait une carrément une triplette, culture, tourisme et patrimoine. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Evan, comment ça va ?
Bonjour, ça va bien et vous ?
Ben, ça va bien, comme un vendredi, juste avant le week-end. Alors vous êtes spécialiste de la Tour Vauban à Camaret. C'est quoi votre job ici ?
Alors moi, je suis à l'accueil de la tour. Je fais également les visites guidées de la Tour Vauban et également un petit peu plus loin, jusqu'à la Pointe du Gouin, une petite visite baladée. Où du coup, on voit un petit peu ensemble les fortifications qui se trouvent sur le chemin, etc.
D'accord. Elles sont bien cachées, les fortifications ?
Ah, ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont faites pour être visibles, hein, comme la tour Vauban, avec sa couleur vraiment en particulier. Mmh. Et il y en a d'autres, oui, qui sont cachées, notamment, par exemple, les bunkers du mur de l'Atlantique allemand, qui sont faits pour être camouflés et pour pouvoir justement défendre.
Alors, combien de visiteurs pour la tour Vauban par an ? On a une idée ?
Ça se compte en une dizaine de milliers.
Ah, quand même ?
Ouais, il y a pas mal de monde qui passe.
D'accord. Alors, elle se visite, on peut rentrer dedans, dans la tour ?
Exactement, ouais, ça se visite. Vous pouvez rentrer, donc vous pouvez accéder à tous les étages de la tour, jusque dans la charpente, qui est d'ailleurs magnifique. Et ouais, c'est sympa. Il y a accès à la batterie aussi, au pied de la tour. Et puis, en visite guidée, forcément, on fait tout le tour et on raconte un petit peu des anecdotes, etc.
Et il y a des périodes pour ça, pour la visiter, ou c'est que pour l'été ?
Alors, vous pouvez la visiter. Elle est ouverte depuis avril. Donc jusque en juin, on est ouvert de 10h à midi, puis de 14h à 18h. Et ensuite, juin, juillet, août, on est ouvert en continu de 10h à 18h. Et après septembre, on reprend les mêmes horaires jusqu'en novembre.
Ok, bah vous allez nous donner un petit peu l'eau à la bouche. On va commencer par peut-être les caractéristiques physiologiques de la bête. Alors elle fait quelle taille et puis elle est faite en quoi ?
Alors la tour, donc c'est une tour en pierre, hein, elle date de l'époque de Vauban, elle est construite à partir de 1689, les travaux sont arrêtés quelques mois après, par manque de financement, ils reprennent en 1693 et s'achèvent en 1696. La tour donc est en pierre, hein, des pierres qui sont d'origine locale, qui viennent donc pour les gros blocs de granit qui sont sur les angles et les ouvertures. Ils viennent de l'Aberildu, donc au niveau du Conquet, sur la côte Léonarde, au nord.
Ah ouais, donc c'est tout l'ouest de Brest, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est plutôt ça, ouais.
C'était acheminé comment ?
C'était acheminé par bateau. Et en fait, et après, sinon, le reste, le gros des murs, en fait, sont comblés avec des pierres ramassées sur le chantier. En fait, l'utilisation de pierres locales, ça permet à Vauban d'économiser sur les coûts de construction des fortifications.
Que ce soit plus rapide aussi, j'imagine.
Exactement, oui.
Ouais. Elle a été montée en combien de temps ?
Elle a été montée, donc, comme je disais, hein, en 1689, ils ont juste eu le temps de faire les fondations. Et donc, c'est 1693 à 1696, le gros du chantier, quoi.
Ouais, alors, Vauban, on le trouve un petit peu partout. Est-ce que cette tour, elle a des points communs avec les autres structures de Vauban ? Et puis, est-ce qu'elle a aussi des spécificités ?
Alors ouais, elle ressemble beaucoup à certaines tours qu'on peut retrouver, notamment en Charente-Maritime, avec le fort Louvois, donc au niveau de l'île d'Oléron. C'est assez classique, hein, une batterie qui est au pied d'une tour. La tour, en fait, a pour but de défendre l'accès terrestre à la fortification. Et par contre, sa particularité, c'est sa couleur. Donc elle a une couleur un petit peu ocre, c'est pour ça qu'on la surnomme la tour dorée. En fait, c'est dû au mélange de chaux, de sable et de briques pilées qui donne cette couleur-là. Alors, elle est voulue par Vauban, cette couleur. D'une part, parce que ça permet de la voir de loin, donc de dissuader une attaque potentielle. Et également, ça lui permet de faire un clin d'œil au roi soleil, Louis XIV.
Ah oui, d'accord, il s'est même amusé à faire ça, d'accord, c'est rigolo. Voilà. Donc, elle a une forme un petit peu particulière, il y a une raison à ça. Elle est octogonale ?
Base carrée. Elle est en fait d'une base carrée et avec deux pans qui sont saillants, donc à 90 degrés au sud et au nord, qui permettent en fait de dévier les boulets. Et en fait, à l'est et à l'ouest, les pans sont coupés pour aménager des meurtrières et défendre en fait les abords de la tour.
D'accord. Ça, c'est ses spécificités à elle. Il y a d'autres.
Globalement, c'est la seule qui a cette forme-là. C'est pour ça qu'elle est un petit peu originale.
Ouais.
Et qui explique aussi pourquoi elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008.
D'accord.
Il y a également une deuxième raison, c'est qu'elle a été en fait le théâtre d'une bataille avec Vauban à proximité, donc en 1694.
Ah, donc il a pu voir un petit peu comment ça se passait, c'est là bien pu. Il a presque pu la tester.
Alors il n'était pas au niveau de la tour pendant la bataille, il était en face sur la côte Léonard, mais il a pu voir la bataille en fait. Donc pour la petite histoire, en fait, on est au cœur en fait, d'un conflit qui s'appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et à Brest, donc, vous avez le port Arsenal qui est là où est stationnée la flotte royale du Ponant, donc de l'ouest. Le reste est à Toulon, au port de Toulon, donc la flotte royale du Levant, de l'est. Et Louis XIV a pour projet en fait que les deux flottes se rejoignent pour bombarder des villes en Espagne, pour en fait que la partie espagnole se retire du conflit. Sauf que à Brest, il y a des espions anglais qui apprennent ça au roi d'Angleterre, qui décident donc d'armer une flotte pour aller attaquer donc cette grosse flotte française. Mais ils veulent en passant aller à Brest, qui sera du coup vidé des vaisseaux, pour la bombarder, pour détruire en fait le port. Sauf que pareil, côté anglais, il y a des espions français qui apprennent Louis XIV les plans anglais. Et donc Louis XIV décide en fait d'envoyer Vauban, qu'il nomme commandant des forces de terre et de mer. Donc Vauban arrive ici, début juin de 1694, pardon. Et donc il prévoit donc la défense. Et comme je vous le rappelle, la tour n'est achevée qu'en 1696. Donc elle n'est pas achevée. Et en fait, il va l'adapter, il va mettre des canons sur ce qui est alors le sommet de la tour, qui correspond aujourd'hui seulement au niveau du rez-de-chaussée.
D'accord.
Voilà. Ils vont arriver le 16 juin 1694, les Anglais et les Hollandais, parce qu'ils se sont alliés. Et malheureusement, ils ne vont pas pouvoir attaquer de suite, parce que les vents sont contraires le 17 juin, quand ils arrivent à proximité. Et ils se lancent donc comme objectif de débarquer à Camaret pour prendre en fait les fortifications du goulet de Brest à revers. Sauf que ben, à ce moment-là, ils ont des rapports assez différents de leur reconnaissance, puisqu'il y avait de la brume. Donc il y a une première chaloupe qui fait une reconnaissance qui dit qu'il n'y a pas de défense, et il y en a une qui dit qu'il y en a plein. Donc ils ne savent pas trop quoi faire, et ils décident au final de lancer quand même un débarquement sur la plage de Trèsrouze le 18 juin vers midi. Et à ce moment-là, Vauban, qui avait quand même prévu cette éventualité, avait fait creuser une tranchée sur la plage et posté des hommes quasiment tous les mètres. Et donc quand les Anglais essayent de débarquer, ils se font décimer, ils se cachent derrière un rocher, sauf qu'entre-temps, il y a un régiment de cavalerie qui était stationné à Crozon, qui rejoint les troupes françaises et qui donc va complètement en fait, décimer les Anglais qui se sont cachés. Le rocher s'appelle aujourd'hui la falaise de la mort anglaise.
Ah oui, carrément.
Ouais.
C'est un peu dark, je trouve, comme nom. D'accord, ok.
La mémoire de la bataille.
Ouais. Est-ce que c'est la seule bataille qu'a connu cette tour ou est-ce qu'elle en a connu d'autres?
Alors, c'est la seule qu'elle a connue en étant vraiment armée, puisqu'au fil du temps, en fait, l'armement va évoluer, donc la fortification ne sera plus aux normes. Et sinon, les prochains combats qu'elle connaît, c'est les combats de la Libération en 1944.
Ouais.
Bon, elle n'est pas armée à ce moment-là, mais elle est endommagée par les combats, notamment la charpente qui prend feu. Voilà.
Et quand est-ce qu'elle a été refaite?
Elle a été refaite dans les années 50. Donc la charpente est refaite exactement en 1956. Si vous visitez, vous pourrez voir, il y a une gravure tout en haut de la charpente qui en témoigne. Et ouais, en fait, elle est refaite en 1956 avec la volonté de lui redonner son aspect de l'époque de Vauban. Et c'est aussi pour ça qu'elle a été inscrite au patrimoine mondial, puisqu'elle a quasiment le même aspect qu'elle avait du vivant de Vauban.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir rapidement à l'intérieur de cette tour?
Alors à l'intérieur, vous avez une scénographie qui vous présente toute l'histoire de la tour, pourquoi elle est construite ici exactement, comment les soldats vivaient dedans à l'époque, qui était Vauban, bien évidemment, hein, quelques éléments biographiques. Effectivement aussi la bataille de Camaret qui est présentée avec plus de détails que ce que je viens de faire. Et bien sûr aussi... les aspects architecturaux de la tour, pourquoi elle a cette forme, etc.
D'accord. Merci beaucoup, Evan. Et puis, une structure qui protège les gens, on passe à une structure qui les accueille. Bon, c'est un peu plus récent quand même, c'est La Passe avec son directeur Jean-Philippe Guillou. Bonjour Jean-Philippe.
Eh ben, bonjour.
Comment ça va?
Bah, très bien.
Bien, bon, d'accord. Alors, on n'entend pas beaucoup parler de La Passe, je trouve. On sait juste que c'est un village vacances, mais on oublie que c'est d'abord une association.
Alors effectivement, c'est une association. Alors l'APAS veut dire l'Association Paritaire de l'Action Sociale du Bâtiment Travaux Publics.
Ouais, c'est APAS BTP.
APAS BTP, ouais. Alors il faut savoir que cette association a été créée en 1946 sur le modèle de la sécurité sociale. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un fonctionnement de mutualisation. Donc 46, reconstruction de la France, hein, qui a été détruite en partie. Alors moi je suis l'Orientais de base, donc l'Orient avait été détruite à 95%. Et pour encadrer en fait tous ces bâtisseurs, l'APAS a pris naissance notamment pour encadrer tous les agents du BTP qui ont œuvré dans la reconstruction de la France.
D'accord.
Donc on a une mission un peu particulière puisqu'elle est diverse et variée dans l'association, hein. On a plusieurs services. On fait office d'un comité d'entreprise externalisé pour les adhérents, en fait, les entreprises du BTP parisien, qui avaient une obligation notamment de souscrire un CE. Donc coup, on vient pallier à ce manque de CE à l'intérieur de l'entreprise et on offre différents services. Donc ça va du service médical, puisqu'il fallait encadrer en fait les blessures des bâtisseurs qui devaient repartir vite au travail, hein, en fait, hein. Et une partie sociale, hein, qui encadre l'agent du BTP en fait tout au long de sa vie. Une partie financière où on vient en aide financièrement aux entreprises qui ont des difficultés, mais aussi aux salariés qui nécessitent d'avoir des crédits de consommation divers et variés, achat de maison, achat de voiture, etc. Et ensuite, on a tout le pôle loisirs-vacances pour notamment l'encadrement des enfants au mois d'août, au mois de juillet, enfin surtout au mois de juillet quand les parents travaillent. Et puis au mois d'août, les villages de vacances qui permettent aux familles de partir en vacances sur des territoires fabuleux puisqu'on a plusieurs établissements et dont notamment Camaret-sur-Mer.
Ouais, ils sont où les autres établissements ?
Alors les autres établissements, alors, on en avait un qui était sur Banyuls-sur-Mer en Pyrénées-Orientales qu'on a vendu dernièrement et un autre qui est situé à Saint-Gervais en face du Mont-Blanc. Donc accessible que par le TMB, le train du Mont-Blanc. Donc les personnes se retrouvent complètement isolées dans la montagne avec un établissement en pied de piste. Donc là c'est vraiment fabuleux, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un domaine... quand vous ouvrez les fenêtres, vous voyez réellement que la nature.
D'accord. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes de l'Orient. Vous êtes retrouvé ici par hasard ou c'était une volonté de votre part ?
Alors, c'était pas tout à fait par hasard parce que moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'association. Donc, ouais. J'ai été directeur du village vacances de Banyuls.
Okay.
Je suis intervenu notamment sur les colonies de vacances et les autres villages pour... améliorer en fait l'accueil, les process de restauration, les offres touristiques adaptées à la demande d'aujourd'hui. Et l'intérêt, c'était de revenir en Bretagne à un moment ou à un autre, puisque moi j'ai eu une large pérégrination professionnelle dans toute la France.
Mmh, imagine.
Et donc, comme il y a eu l'opportunité d'avoir le poste sur Camaret, je suis venu très facilement.
Ouais. Et vous connaissiez quand même avant ?
Oui, je connais très très bien, ouais. Puisque moi tout jeune, je partais en vacances en Bretagne avec mes parents. On allait rarement très très loin, on découvrait la Bretagne en fait.
Ouais. Alors, il se trouve où ce centre actuellement ?
Alors sur la pointe de Pénir. Donc on est vraiment sur un site majestueux, hein. On est sur les falaises de la mer d'Iroise. On a un restaurant panoramique où on a vraiment l'impression d'être dans la mer quand vous mangez. Donc il faut vraiment se déplacer et venir voir parce que ça vaut vraiment le coup. Il ne me semble pas, pourtant j'ai un peu d'expérience dans le domaine, qu'il y ait des endroits aussi fabuleux, quoi.
Ah ouais ?
Oui, oui. Non, il n'y en a pas un.
vous venez là juste il y a quelques jours, je crois même quelques semaines, de constituer votre équipe pour la saison. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui sont vos collaborateurs ?
Alors les collaborateurs, alors on a une base de permanents qui sont sur des emplois stratégiques, hein, qui permettent de stabiliser en fait le fonctionnement. On est 6 permanents sur l'établissement et on embauche environ entre 20 et 26 personnes. Alors, au gré de l'activité, hein, on sait que sur la période estivale, on va avoir quelques renforts. Et aujourd'hui, moi, j'ai axé en fait le recrutement sur le territoire. Pourquoi ? Parce que ça permet de garder les personnes d'une année sur l'autre. Et puis, d'autre part, nous faire gagner du temps sur la formation des gens, puisque effectivement, quand on renouvelle les effectifs, eh ben, on perd du temps dans la formation, dans le fait d'appréhender son métier, etc.
Alors, on parlait tout à l'heure de la maison des saisonniers qui allait s'ouvrir, hein, qui était en projet. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ?
Ah ben, moi, je pense de ce projet que du bien. Ouais, ça fait 20 ans que je milite sur l'idée que la France est tournée vers le tourisme et que maintenant, il faut vraiment se poser la question du logement, en fait, des saisonniers. On a besoin de déplacer de temps en temps les compétences, donc on a aussi besoin de les accueillir, bien les accueillir. Pour le coup, on a des territoires qui ont des fortes affluences de touristes et on a du mal à recruter parce qu'on a du mal à loger en fait. Donc tout ce qui va dans le sens du logement va dans le sens du tourisme.
D'accord. Et alors du coup, il se compose de quoi votre structure ? Qu'est-ce qu'il y a dans le centre à Passe ?
Alors dans le centre à Passe, il y a tout. En fait, c'est un centre multifonction, puisqu'on accueille aussi bien du séminaire d'entreprise, donc avec un service upgradé, qui permet l'accueil de formations, de réunions d'entreprise, etc., dans de très bonnes conditions d'ailleurs. Et on accueille des groupes de randonneurs, de sportifs, cyclotouristes, et puis de groupes constitués d'associations diverses et variées. Des familles, évidemment, nos bénéficiaires, en premier lieu l'été, puisque c'est eux qui financent quand même le fonctionnement. Et ces familles parisiennes qui sont donc les salariés du BTP parisien. On accueille aussi les familles du territoire, de Bretagne et puis de la France entière.
Oui,
en fait,
c'est pas ouvert, c'est pas réservé aux gens du BTP.
Non, c'est pas exclusivement réservé. Alors il y a des périodes de réservation évidemment,
ouais.
Mais après on ouvre en fonction du remplissage.
D'accord. Alors ce qui est rigolo, en plus d'être à vocation sociale, vous l'aviez un petit peu dit, il y a aussi une démarche éco-responsable. Bon, évidemment, vu son emplacement, il y a plutôt intérêt. J'imagine que...
Exactement.
Il y a des contraintes, justement
Alors, il y a énormément de contraintes. En fait, sur la partie... Le village est écolabellisé. L'écolabel européen, qui est très contraignant. Donc, qui nous pousse vers une démarche du gaspillage, l'anti-gaspi, du plastique, la gestion du plastique. Alors, c'est une démarche avant tout qui n'est pas nécessairement obligée d'être guidée par un label, puisque nous, on entreprend en fait déjà naturellement la préservation du territoire, et il est évident que le village s'inscrit là où il est placé dans un objectif de préserver ce territoire de Camaret et notamment la pointe de Pénir. Alors on sait que l'afflux touristique peut générer des désordres et notamment des déchets énormes. Donc on est déjà, nous, installés dans une vraie démarche, en fait.
Il y a beaucoup, justement, de problèmes avec ça au niveau de la pointe ou pas ?
Non, parce qu'on a mis en place, alors, notamment un petit exemple, les randonneurs viennent avec leur contenant, on les nettoie. Ils repartent avec, donc du coup on ne génère pas de déchets plastiques sur l'établissement. On a notamment descendu de 90% l'usage de produits à usage unique, par exemple. Donc on a fait comprendre aux gens que oui, le tourisme aujourd'hui a un impact négatif sur les territoires et l'environnement, et qu'il fallait qu'on soit tous garants de la préservation de ce territoire, en fait.
Est-ce que vous vous occupez aussi un petit peu des alentours de ce qui se passe au niveau de la pointe de Pénir, ou c'est juste au niveau de la structure ?
Alors nous, c'est juste au niveau de structure. Alors, à savoir qu'on est quand même sur une surface assez étendue, hein. Donc on a déjà affaire avec notre structure.
Ouais, j'imagine.
Voilà. Alors évidemment, on a une base intégrée, nous, ici, hein, une base nautique intégrée. Donc on est d'autant plus sensibilisés. On veut conserver aussi le territoire sur la mer. On est sur la terre, sur la mer. Donc, du coup, on est vraiment engagé complètement tous dans ce système.
Et la réception au niveau des gens, ça se passe comment ?
Oh, ça se passe très très bien.
C'est vrai ?
Oui, très très bien, ouais.
Bon, et qu'est-ce que vous faites sinon le reste de l'année, quand vous n'êtes pas en période estivale ?
Alors, il faut savoir qu'un établissement de ce type, qui est donc sur 62 chambres, 160 lits, restauration incluse, activité incluse, base nautique intégrée, on est contraint, en fait, l'hiver, de fermer pour remettre l'établissement en état et puis réparer, puisque l'usage intensif fait que le patrimoine souffre un peu. On a besoin d'arrêter un certain nombre de services, Donc voilà, pour remettre un peu d'équerre, gérer le fonctionnement.
Ouais.
Et on a développé cette année de la gestion libre. Donc du coup, on ouvre à tous ceux qui veulent voilà, organiser des mariages, des anniversaires de famille, etc. Une gestion libre facile d'accès. De façon à pouvoir organiser leurs événements festifs. Quoi.
Ouais, vous organisez aussi, je crois, un repas pour nos aînés.
Ah
c'est
oui,
ça
le repas des anciens.
Des anciens,
oui.
Ouais.
Qui est depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, et on est très content de les accueillir.
Ouais.
Alors maintenant, ça devient une petite routine, hein, ça fait 20 ans qu'on ouais. fait ça, donc, donc c'est bon. Hein.
Vous avez d'autres projets peut-être qui vont dans le même sens que ça ? Ou alors, des projets tout court hein.
Alors, ouais, alors, sur la... alors déjà, c'est de conserver ce qui existe. De mieux le faire. Déjà, c'est déjà un bon objectif. Et après, derrière, évidemment, ça va être d'étendre par cette gestion libre, en fait, l'activité commerciale de l'établissement.
D'accord.
Voilà, tout en maintenant, en fait, un peu de temps pour réparer ce qui est à réparer à l'intérieur de l'établissement.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
C'était un plaisir, effectivement. Toute dernière partie du LEM, et je reçois Swazik avec son mari qui est derrière, Kate. Le même dévi, du coup, ça en fait deux pour le prix d'un, presque, des dévis. C'est super, on en a plein autour de la table. Sauf que moi, c'est mon prénom. Et oui, donc vous êtes une association des arts et spectacles, on va dire, et aussi de la danse, et surtout, c'est la musique bretonne, pour être plus précis. Et c'est une association, donc, camarétoise. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bonjour.
Comment, ça va bien ?
Ça va.
Vous êtes bien avec les casques et tout ?
Ah ouais,
ça fait bizarre
ouais.
un petit peu. Hein. Ouais. C'est normal, c'est normal. Bon, alors l'association, elle s'appelle Kesson, ça s'écrit K-E-2-S-O-N. Oui. Depuis combien de temps existe-t-elle ?
La version bretonne de l'association, Kesson.eu, existe depuis fin 23, c'est très récent.
D'accord, pourquoi il y avait une autre version ?
Oui, parce que nous étions en Cornouailles, britannique. Et donc, Kesson, c'est un nom cornique qui veut dire harmonie. En breton, ça aurait dû être Kesson, mais on a gardé, parce que nous avions déjà un site web et ainsi de suite, donc on a gardé le nom d'origine.
Alors, vous avez combien d'adhérents dans votre association ?
Pour le moment, c'est surtout au niveau des donations et du soutien. On n'a pas, en tant que tel, des adhérents, mais on a beaucoup de personnes qui...
Des bénévoles, quoi.
Oui, beaucoup de bénévoles.
Beaucoup de
oui.
bénévoles. Ça, c'est bien, c'est important. Alors, c'est quoi l'objectif principal de l'association ?
Disons que nous nous adressons surtout aux autres associations. On veut pouvoir les aider à organiser des événements culturels qui incluent les danses et la musique traditionnelle de la région. Et pour cela, on peut leur proposer de les mettre en relation avec des groupes de musiciens locaux. On peut également les organiser au niveau de la publicité. On peut les aider au niveau de la sonorisation. Et surtout, une billetterie en ligne. Et on offre également toute la publicité au niveau web, au niveau de tous les médias.
Alors,
oui, on essaye... Si elles veulent organiser un événement pour récolter des fonds, par exemple, bon, on leur facilite la tâche.
Alors, ça veut dire quoi exactement ? Vous êtes parti de quel constat pour monter votre association ?
C'est le fait que quand il y avait des événements, c'était souvent des artistes extérieurs qu'on venait venir, qui coûtaient très très cher pour commencer aux associations, donc qui enlevaient une grande partie des bénéfices qu'elles auraient pu récolter pour supporter leur travail. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de musiciens et de danseurs dans la presqu'île qui aimeraient bien se faire valoriser également, qui travaillent énormément et qui ont besoin d'être mis en avant. Donc on supporte les associations en leur fournissant toute l'infrastructure derrière. Si elles embauchent en quelque sorte 50% de musiciens ou de danseurs de la presqu'île.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un musicien arrive à titre gratuit, bon, c'est super.
Mais c'est jamais gratuit.
Ben non. Et c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours les coûts des instruments. Si vous avez un groupe de 4 musiciens, par exemple, on dirait grosso modo 10 000 euros en instruments. C'est cher, c'est très cher. C'est des instruments qu'il faut maintenir. Et puis, bon, bah, y a également le transport, il faut s'organiser. Et puis, bon, bah, y a besoin de répéter. Souvent, il faut trouver un local pour répéter. Et ça aussi, on essaye d'aider dans ce sens. Oh, je ne sais pas, je suis à court d'idées.
je vais vous aider. Bon, c'est quoi vous, votre rapport avec les musiques bretonnes? Qu'est-ce qui vous plaît dedans?
Ah, wow. Quand j'étais jeune, je ne prends pas bien le français.
C'est très bien, vous comprenez très bien. Il y a aucun. Prenez votre temps, pas de problème.
Quand j'étais jeune, je me rendais souvent en Bretagne en jouant avec un groupe de musique traditionnelle de Cornouaille qui s'appelle la Baka. Et c'est à cette époque. Ça fait longtemps. C'est à cette époque que je suis tombé amoureux de la musique et la danse bretonne. Et surtout, l'ambiance conviviale et accueillante des Festunos.
Vous avez presque la même chose quand même chez vous, non?
Bah oui, nous avons...
Mais c'est pas pareil.
C'est pas pareil, la musique, c'est un peu différent. Nous avons, par exemple, des danses en 5 tons.
D'accord.
Je l'ai jamais vu aussi. Mais...
Très bien. Et donc, donc quand vous étiez plus jeune, vous, c'était ça qui vous plaisait. Vous êtes tombé amoureux et vous trouvez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau des artistes ici. C'est pour ça que vous avez monté cette association, c'est ça?
J'ai vu les événements sur la presqu'île. Et c'est toujours les très...
têtes d'affiche.
Oui, les groupes de Dyer qui jouent ici. Mais il y a beaucoup de musiciennes ici qui jouent très bien et il n'y a pas d'opportunité.
D'accord. Alors, est-ce que votre association, elle s'occupe aussi de faire des projets ou des événements? Je crois que vous en avez un ce week-end.
Oui, on en a un. C'est le Gualeroine. Et ça, c'est encore deux constatations. Kit appartenait à deux groupes sur la presqu'île. Et puis, un des groupes a dit, ce serait bien de faire un fest-nose, ensemble, de jouer ensemble. Et puis, ensuite, Kit s'est dit, il y a la Saint-Patrick, ça va bien, mais pourquoi ne faites pas, il n'y a pas beaucoup d'événements pour la Gualeroine sur la région. Et il y en a d'autres, au niveau régional, mais pas ici.
Alors, oui.
Alors, on s'est dit, ce serait une occasion de jouer. Et puis les événements après sont intervenus en Ukraine. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui avaient besoin de fonds. Et la Croix-Rouge française a organisé un recueil. Alors on s'est dit, ce serait bien de faire de cet événement un moyen de collecter des fonds pour supporter une association. Et c'était il y a 4 ans. Et là, c'est la 4e édition. Et donc il y a eu la Croix-Rouge, le fonds d'Ukraine. Il y a eu la Banque alimentaire de Camaret. Il y a eu la Soupape, une autre association. Et cette année, c'est au profit d'Animage, qui travaille beaucoup avec les personnes âgées et leur offre beaucoup d'activités.
Alors, ce sera où, cet événement?
Alors, c'est à la Maison des Jeunes, à Camaret, à 21h, demain soir, le 17.
Oui. Eh bien, c'est parfait. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à Marjolaine Simon, chargée de com' à Camaret, sans quoi cette émission n'aurait jamais été possible. À tous nos intervenants, Joseph Merour, Jean-Philippe Guillou, Evan Nurit, Soizic et puis Kate aussi. Merci beaucoup à Tristan Alilu qui ont aidé Camille, mon super techos qui m'a accompagné toute l'année pour ses émissions Hors les Murs. C'est sa dernière émission aujourd'hui. Merci à toi, mon mignon, pour cette super collaboration. On se retrouve lundi avec Véro. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain. Excellent week-end.